Voilà, vous venez d'entendre le témoignage d'une jeune fille de 20 ans. Mais pour compléter son récit, nous allons ajouter les réflexions d'autres jeunes, des jeunes qui tentent de se situer par rapport à la drogue, mais aussi de ceux qui se disent les premiers intéressés, les parents, et enfin nous entendrons ceux-là parmi les médecins qui sont en contact avec de jeunes utilisateurs de drogue.
J'étais détendue, mais rien ne m'intéressait finalement. Enfin, je ne m'intéressais à rien.
Et maintenant, vous intéressez à quoi ?
À rien non plus. Enfin, maintenant, je sais faire la différence entre être bien et être mal.
Est-ce que tu pourrais expliquer ce que tu penses par planer ?
Non, moi, je pense de se mettre dans un coin pour que. Un peu de musique ou un. Une bouteille d'encre de Chine, un pinceau, une feuille de papier, puis de regarder au plafond, Béa, en train de dessiner. Enfin, ça peut pas tellement s'expliquer non plus. C'est un état second qui est plus proche de la béatitude que, comme souvent on dit pour les gens qui fument, de l'assassinat, quoi. Ou des choses comme ça, ou du brigandage, ou de la bestialité.
Oui, c'est une espèce de béatitude calme, enfin, on est
calme,
tranquille.
Oui. Oui.
On n'a pas envie de...
De tuer ni personne, enfin... ni même de jeter des choses par la fenêtre pour atteindre les passants. On ressent des vibrations qu'on peut même pas sentir. Que normalement, même quelqu'un qui est hyper nerveux peut pas les sentir. Bon, on peut sentir un chat à 50 mètres de distance. Un chat vibre et l'acide apporte les vibrations, on le sent le chat. C'est assez bizarre, c'est la seule drogue qui fait cet effet-là en fait.
Pour vous aussi, la défense, c'est la facilité.
C'est la facilité, pas outre mesure, parce que c'est justement très difficile de se défoncer. Parce que du moment que ça accentue les sensations, les capacités que l'on a, tout ce que l'on ressent, il faut savoir justement être bien dans sa peau, même lorsque, par exemple, enfin, avec l'héroïne, c'est très facile, puisque lorsqu'on se l'injecte, on est automatiquement bien dans sa peau. Ce qui ne veut pas dire que défoncer, c'est si peu de choses. Ça demanderait un peu de réflexion. Je suis là pour ça, peut-être.
Mais est-ce que, d'après vous, il y a certaines substances qui permettent de vous mettre dans des états de plaisir ou des états d'ailleurs de souffrance aussi extraordinaires, et quelles sont les substances en fait que vous prenez habituellement pour vous défoncer?
Pour me défoncer, de l'héroïne pour être bien dans ma peau.
Quels sont les problèmes alors de celui qui est accroché à l'héroïne?
Mes problèmes, c'était de trouver de l'argent, absolument, premièrement. Le deuxième, c'était de trouver la poudre. C'est toujours l'angoisse de savoir s'il y en aura, s'il n'y en aura pas.
Si, c'est bien ça.
C'est bien
le
ça.
Problème, la défense, c'est ne pas être angoissé. Voilà ce que je voulais dire. Ce monde est angoissant pour la plupart des gens. Ça se lit sur le visage des gens. Les gens sont pas beaux, les gens sont moches. Pourquoi? Parce qu'ils sont angoissés. Par contre, une fois défoncé, on voit les gens chouettes. On voit le monde chouette et on a envie de vivre. Ce qui permet de se poser des questions. La défense, c'est utile. Je pense jusqu'à un certain point que c'est utile.
Est-ce que vous partagez ce point de vue?
Oui,
vous donne envie de vivre.
Oui, j'ai envie de tout. Quand je suis défoncée, j'ai envie
l'angoisse,
de,
justement, c'est
de vivre, de tout.
Très exact.
Oui, mais alors, donc pour vous, le fait de se shooter, par exemple, ça n'a rien à voir avec le fait de vouloir se suicider à petit feu.
Absolument
pas.
Du tout. Absolument pas. Alors là, non.
Comment vous voyez à l'heure actuelle la journée d'un junkie sérieux, hein? Est-ce que vous pensez que son problème, c'est trouver de la poudre? Mais qu'est-ce que fait un junkie dans sa journée? d'après vous?
Bien, il se lève.
D'accord.
Il se shoot. Et puis ensuite, ça dépend si... s'il en prend en grande quantité, s'il en prend en petite quantité, s'il en prend qu'un ou deux par jour, 10 par jour. Ça dépend de ses possibilités. Parce que... toujours moyen de se débrouiller.
Mais l'argent.
Et bien l'argent.
C'est vraiment pas un problème. On le trouve par rapport à sa dose.
On trouve toujours l'argent par rapport à sa
dose. Toujours par rapport à sa dose, surtout si on l'a décidé. Alors là, ça n'est vraiment pas un problème. Ça peut devenir un problème si on rencontre vraiment des difficultés, mais vraiment. Pratiquement pas, si on est intoxiqué, ça ne pose pas de problème. On le trouve.
Vous partagez ce
point de vue ? Non, je pense que c'est un problème. L'argent, c'est un problème. Ça dépend
ça
comment on le trouve.
Ça pose un problème moral. Oui, voilà. C'est évident. Mais ça ne pose pas d'autres problèmes. Ça pose un problème parce qu'on ne voudrait pas faire de mal, pas taper chez les autres,
c'est ça.
Pas faucher de trucs. On voudrait notre dose d'héroïne. On part du principe qu'on veut notre dose d'héroïne. Pas on. Mais enfin, cela arrive. Et on veut sa dose d'héroïne, et pour cela, on la trouve. Évidemment, ça dépendra des obstacles qu'il y aura. Mais on veut toujours faire bien, et en général, on préfère emprunter que l'avoir d'une autre façon, ou travailler.
Est-ce que vous connaissez des héroïnomanes qui travaillent?
Oui.
Moi, j'en connais très, très peu. Vous en connaissez?
Parce qu'il n'est absolument pas suffisant de travailler pour avoir l'argent nécessaire, et que toute une journée n'est très souvent pas suffisante pour réunir 500 francs. Je ne sais pas si vous gagnez 500 francs d'argent. C'est à peu près le tarif peut-être qu'il faut pour un héroïnomane ici à Paris, par exemple, je pense. Donc ça pose quelques problèmes, et des problèmes moraux particulièrement, et ça pose des problèmes de temps. Il faut faire très très vite pour trouver l'argent avant d'être en manque. Ce qui est extrêmement amusant d'ailleurs. Il faut courir partout. Il faut traverser 20 fois Paris dans une journée, à pied, n'importe comment. Trouver n'importe quel moyen. Ça se trouve tout seul. Ça se trouve toujours. Si on a l'envie de prendre l'héroïne.
Et je me permets de revenir à l'état de manque. Est-ce que cet état de manque, c'est pour vous quelque chose d'aussi atroce que...
Bien sûr. Rouler par terre, agoniser pendant 3 ou 4 jours sur un paillasson dans la porte d'un ami, en espérant qu'il viendra, qu'il rentrera de vacances, pour espérer avoir 50 francs. 50 francs, même pas la dose pour calmer même pas un quart d'heure un corps et des milliers de cellules qui crient et qui... C'est vraiment dur. Traverser 50 fois Paris dans tous les sens, voir tout le monde, traverser même la France pour aller voir des gens pour essayer d'avoir du fric. Et ces gens se disent, c'est pour des héroïnes, donc c'est mal. Donc c'est mal, donc on lui prête pas de fric. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? On en trouve d'une autre façon, voilà. Mais c'est vraiment dur c'est vraiment dur d'être obligé de devoir faire quelque chose pour... c'est vraiment dur, l'état de manque, oui, l'état de manque est vraiment dur.
Parce que dès que vous avez l'argent,
non.
C'est comme si vous étiez calmé.
Absolument pas, ce n'est pas psychologique à ce point-là.
Dès qu'on a la poudre dans la main.
Dès qu'on a la poudre dans la main, ça va déjà mieux. Dès qu'on a le fric, ça va déjà mieux. Dès qu'on a la poudre, ça va déjà mieux. Quand on est sûr que c'est de la bonne poudre, ça commence à aller bien. Quand la petite cuillère à soupe, commence à chauffer, là, ça devient chouette. Mais vraiment chouette.
Je m'excuse, mais vous avez quand même dû subir... malgré vous, ou volontairement, de nombreuses cures de désintoxication dans les hôpitaux. Hein?
Oui.
Bon, est-ce une maladie? Comment on peut la traiter si c'est une maladie?
Je ne pense pas que ce soit une maladie. Même accroché physiquement à l'héroïne, c'est-à-dire accroché, même vraiment accroché, super accroché, si on a des raisons d'arrêter, on peut très très bien arrêter. Disons que ce n'est pas une maladie, c'est une conséquence des structures de de la société, les structures de répression, les structures, moi je pense, dans une société où on n'arrive pas à se réaliser, à s'épanouir comme on le désirerait. Je pense. Il faudrait.
C'est un moyen d'épanouissement.
Pas spécialement. C'est, de toutes les façons, c'est un excellent stimulant, croyez-moi. C'est lorsque l'on est bien dans sa peau, c'est-à-dire avec une super dose d'héroïne, on a plutôt envie de recommencer, donc de vivre, donc de continuer, donc de voir. Et lorsque l'on voit que ça peut vraiment être bien, ça, lorsque l'on voit à quel point on peut être bien, alors que la plupart des gens s'enlisent dans un truc morne, terne, triste, dans des trucs vraiment pas chouettes, si on préfère, et se crispent par exemple sur la violence et ne pensent qu'à des trucs déplaisants, disons, et bien on a envie justement d'apporter aux autres un peu du bien-être, un peu du calme, un peu de la paix, un peu de l'amitié, n'importe quoi, tout ce que, pas n'importe quoi justement, pas n'importe quoi, voilà, non, un peu de tout ce que l'on trouve là-dedans. Mais pour cela, il y a un moyen, c'est d'arrêter.
Et vous, est-ce que vous pensez que c'est une maladie ?
Non, pas du tout.
Mais alors pourquoi vous pensez qu'il faut passer par l'hôpital pour essayer d'arrêter ?
C'est le seul moyen. Parce que seul, on irait en chercher.
Non, c'est une certaine prise de conscience, le fait qu'il y a un arrêt brusque. Moi, je pense toujours. Ce qui n'empêche pas que si la prise de conscience est, comment dirais-je, est faite par la répression, c'est-à-dire si on nous enferme dans un hôpital psychiatrique, on trouve toujours une raison d'en reprendre. Moi, je pense.
Si je rentrais, ça y est, c'était la grosse engueulade. On allait faire un plat comme ça, de parce que j'avais découché. Alors,
je suis encore sous le choc. Mon fils était dans le coma il y a un mois. Il est resté 4 jours entre la vie et la mort. Et je suis encore très, très, très émue. Je ne peux pas parler. Voilà, maintenant, ça va beaucoup mieux. Enfin, il n'a jamais eu de père, cet enfant. J'ai été veuve, il avait 2 ans, 2 ans et demi. Je me suis remariée, je viens de divorcer. Et je dois dire que mon mari était très très faible avec lui, et le père, c'était moi. J'ai toujours été le père. Et maintenant, il faut que je devienne la mère. Un soir, il me dit, oh maman, on a bu un petit coup, ce n'est rien. Bon, moi j'ai fait venir le docteur chez moi, parce qu'il ne voulait pas voir le docteur, naturellement, il se sentait très bien. Et un jour j'ai fait venir le docteur, ça qui a fait semblant de passer par hasard. Et puis, il m'a dit, il est très bien, il est un peu maigre, mais absolument rien vu. Et je dois dire qu'il y a, j'ai passé une semaine avec lui en août, chez ma mère dans le Jura. Il était splendide, on a fêté ses 20 ans, tout s'est très bien passé. Je n'ai absolument rien remarqué. Il avait un comportement tout à fait normal, il se levait à 5 heures pour aller à la pêche, il faisait de la moto, enfin il paraissait très dynamique. Et enfin, je crois que le malheur est venu de ce qu'il a un vieux grand-père de 90 ans qui est extrêmement faible et qui lui donne beaucoup d'argent. Alors, après avoir fait une visite à ma mère, il est resté 3 semaines, ce qui m'a étonnée, parce qu'il s'est drogué, mais il est allé très loin. Ensuite, il est allé voir le grand-père qui lui a remis un livret de caisse d'épargne de 300 000 francs. Alors, avec ces 300 000 francs, il s'est drogué à mort en Hollande. Pendant 3 semaines, alors là, l'héroïne, enfin, la piqûre, et il est revenu dans un état lamentable. Il n'a pas pu revenir sur sa moto. Il m'a dit qu'il avait vendu de la drogue pour pouvoir faire voyager sa moto par le train, et c'est un camarade qui l'a recueilli, ce camarade justement que j'ai invité aujourd'hui et qui m'a donné quelques détails. Pendant 4 jours, il a été entre la vie et la mort, mais alors le camarade a demandé au médecin des conseils au médecin, on lui a donné des calmants, il était tout près de chez moi, j'ignorais, je ne savais pas, ça se passait au mois d'octobre, c'était à quelques centaines de mètres de chez moi. Et pour moi, il était censé être en Hollande. J'étais très angoissée. Mais c'est tout. Le docteur m'avait rassuré, m'avait dit non, il ne se drogue pas. Je venais de passer une partie de mes vacances avec lui, il était très bien. Et quand je l'ai revu, un cadavre. Mais alors, c'était effrayant. Les yeux creuses, le teint blafard, les yeux maquillés. Mais j'ai failli m'écrouler. Et puis là, ça va bien. Enfin, ça va bien, relativement bien. Pour l'instant, mon problème, c'est qu'il se remette physiquement. Moi, je vis au jour le jour et je ne veux pas voir ce qu'il fera plus tard. Alors là, je rejoins monsieur, je trouve que les médecins souvent se trompent.
Mais quand on écoute un peu le désarroi des familles qui ont un problème même de hashish, quand ça se mêle à des problèmes familiaux, on se demande réellement où c'est métabolisé dans notre société et où passe toute cette quantité d'angoisse. Je pense qu'actuellement, encore aujourd'hui, il y en a beaucoup qui passent dans les commissariats, qui passent à la brigade de protection des mineurs, voire même des plaintes directes adressées de façon anonyme au procureur de la République.
Parents qui emmènent leurs enfants à la police ou qui vont voir le juge pour des questions de hashish, ça existe. Je crois que c'est parce que ils ne savent pas où s'adresser et en plus, je crois aussi parce qu'ils ne connaissent pas du tout les problèmes de drogue et que pour eux le hashish c'est le début de la fin, c'est l'antichambre du crime, c'est tout ce qu'on veut. Et nous, on est obligés, c'est rare quand on en voit chez nous, hein. Enfin, ceci, c'est même. On est obligés parfois de leur expliquer, de les prendre, et puis de leur expliquer en disant que vraiment, il faut arrêter comme ça, ils dramatisent. Hein. Parce qu'à fumer un joint de hashish, c'est peut-être pas bien. Mais enfin, de là à aller. Commissariat de police, parce qu'en fait ça entraîne ensuite une enquête. Et alors pour désinsérer un gosse dans un lycée, une enquête de police pour laquelle il se sent responsable, ça doit être quelque chose quand même psychologiquement difficile à supporter.
En tant que généraliste, un toxicomane, c'est une personne qui s'adonne éventuellement à une substance prohibée légalement, mais surtout dont le comportement devient négatif, c'est-à-dire n'est plus productif de quoi que ce soit. Moi, je préfère cette définition-là.
Il se trouve d'ailleurs que ça concorde personnellement avec tous les toxicomanes que j'ai eu l'occasion de voir, car ils ne sont absolument plus productifs. Il se trouve que on s'occupe en tant que médecin très souvent du problème chimique, mais ce n'est qu'un symptôme, et on peut se demander si justement le fait qu'il soit plus productif précède ou suit la toxicomanie.
J'ai deux exemples de toxicomanie de l'adulte à l'esprit, un de jeune adulte et un autre d'un type de 50 ans. Le premier, les jeunes adultes, c'était un couple qui était tous les deux employés dans bureau et grande administration. Ils étaient tous les deux à l'héroïne et travaillaient régulièrement. J'ai du mal à dire que ces gens-là étaient des usagers de toxiques. Il s'agissait d'héroïne, ils étaient réellement très coincés dans leur héroïnomanie. J'appelle quand même ça une toxicomanie, bien qu'il n'ait pas de signe de maladie. Ils ont eu des signes de maladie à partir du moment où il y a eu un manque d'approvisionnement. Mais ils étaient adaptés dans leur toxicomanie. Quand ils en avaient, ça ne posait pas de problème. Enfin, tout au moins en apparence, d'après ce qu'ils disaient. C'est assez peu vraisemblable. Il parlait des compensations physiques quand même, au bout d'un certain temps, qui étaient à craindre.
Je crois des problèmes qui peuvent se poser aux médecins dans le cadre de drogués au hashish, au LSD. Et je voudrais savoir un petit peu quel genre de problèmes médicaux peuvent poser ce genre de malades. Est-ce qu'on doit les considérer aussi comme des malades? Je vois mal leur situation.
Je pense que les problèmes médicaux posés par le hashish et le LSD vont aller en diminuant considérablement. Et que si les praticiens ont pu en rencontrer ces dernières années, ils en rencontreront de moins en moins. Mais nous voyons toujours dans les centres de consultation pour enfants et adolescents des gosses qui présentent des états d'angoisse, voire même des phénomènes plus graves de décompensation. En médecine générale, des précordialgies, des palpitations, qui sont des manifestations anxieuses atypiques, mais qui sont quand même des questions posées aux médecins généralistes.
Ensuite, ils viennent nous voir. Ils disent, voilà, c'est plus possible, je ne tiens plus, il faut faire quelque chose pour moi. Alors vous, vous pouvez faire quelque chose pour moi. On leur dit, non, on ne peut pas, ou on peut essayer, mais avec vous. Et ils reviennent parfois 10 fois, vous savez. Certains nous ont dit, et ça je veux bien le croire, s'être arrêtés devant la porte de l'hôpital 8 jours de suite sans oser rentrer. Puis ils rentrent. Et un hôpital, surtout, c'est pas quelque chose d'accueillant. Ils rentrent, ils attendent pour nous voir, parce qu'on a beaucoup de monde, ils attendent pour nous voir. Bon. Et ensuite, ils reviennent, mais ils reviennent nous dire bonjour, certains. Je pense qu'on ne fait pas de démagogie, hein. On ne leur dit pas c'est bien, c'est pas bien. Bon. Mais certains viennent nous revoir, ils sont drogués, ils sont sous héroïne, on n'a pas besoin de vous. Ils viennent vous dire bonjour. Discute un peu avec eux, ça dure 5 minutes, c'est parfois dans un couloir, c'est parfois quand il fait beau dans la cour, puis ils s'en vont. Mais 8 jours après, ils nous envoient la petite amie qui, pour qu'elle vienne se faire désintoxiquer, dans leur langage, pour un sevrage, ou pour voir ce qu'on peut faire pour elle, ou pour guérir ses abcès. Et ça devient, disons, un lieu de rendez-vous, ils savent qu'ils peuvent rencontrer quelqu'un, quand ils sont vraiment dans l'ennui. Et alors, au bout d'un certain temps, ben, ils demandent à rentrer. Ça ne veut pas dire qu'on a des meilleurs résultats que les autres, mais c'est pour ça qu'ils viennent. Je crois que c'est pas... je crois qu'ils viennent chercher quelque chose qui nous faisait très peur au départ, parce qu'au départ, ils venaient chercher la guérison. Et puis, on savait qu'on ne pouvait pas leur apporter la guérison, on pouvait leur apporter qu'une aide dans leur trajectoire. Les accompagne. Maintenant, on l'a compris, c'est pas toujours facile pour tout le monde dans une équipe de comprendre qu'on accompagne des gens et qu'on les guérit pas, surtout quand on est médecin. Ou en plus, même quand on n'est pas médecin, quand on est psychologue et qu'on a une grande confiance dans le médecin, on se dit, bon, alors qu'est-ce que c'est que ce médecin qui guérit pas? Et puis, ben, c'est ce qu'on fait.